écoute, merci. On se quitte avec le dernier morceau de ta playlist. Je te laisse le mot de la fin pour conclure cette émission.
Eh ben, merci à toi. Le mot de la fin, ça va être juste une grande continuité. Hein. C'est comment on fait avec tout ça. Et ça va sûrement recommencer.
Merci Rosalie pour ce temps précieux que tu nous as accordé.
Merci à vous de m'avoir invité parce que voilà, c'est chouette, je suis contente de venir présenter ce projet.
Alors est-ce que Glouteron, c'est une tentative de se débarrasser de ses pensées ou plutôt d'apprendre à vivre avec ?
C'est plutôt d'apprendre à vivre avec, parce que se débarrasser, je sais pas trop comment on fait. Voilà, comment on fait avec, c'est le bon terme, je crois.
Glouteron, alors c'est vrai que c'est un mot étrange. Moi, avant de préparer l'émission, en fait, je savais pas du tout ce que c'était. La lampoure de Glouteron commune, j'ai découvert que c'était une plante à fleurs de la famille des Astéracées. C'est une plante qui s'accroche partout. C'est un peu comme des pensées qui collent au cerveau, qui s'agrippent à nous, en nous. Comment est arrivé ce titre ?
Ce titre, il est arrivé de la même manière que j'ai écrit en fait les textes qu'on entend dans ce documentaire. En fait, c'est des moments où moi je traîne comme ça autour des berges du Tarn, puis dans les sentiers. Et là, je rencontre cette plante. En faisant des recherches, je vois qu'elle s'appelle lampourde, mais je vois qu'elle a aussi un nom, qui est le glouteron. Et je trouve ça, ce nom m'inspire parce que... Il parle, quoi, c'est ouais. Le glouton, le
ouais,
glouteron,
voilà,
et que du coup c'est un peu un moment où j'ai envie de travailler la narration de tout ça, de jouer sur les fables et sur ce côté un peu de ce qui nous effraie.
Un imaginaire un peu presque animal, de monstre, glouteron, on imagine quelque chose d'un peu vorace qui dévore, ouais, ce truc qui peut effrayer en tout cas, quoi.
C'est l'esprit envahisseur en fait, c'est l'esprit envahisseur qui vient nous prendre.
Évidemment, avec cette symbolique autour des prétendues mauvaises herbes, comme quelque chose qu'on voudrait arracher mais qui repousse toujours, qu'on imagine prétendument inutile mais qui possède malgré tout une forme de beauté, voire d'utilité.
Ça vient faire une métaphore avec ça, voilà.
Ces fameuses pensées envahissantes qui sont à la fois intrusives, répétitives et chargées émotionnellement. Est-ce que tu pourrais dire de quoi il s'agit exactement ?
Alors de quoi il s'agit exactement ? C'est compliqué à mettre des mots exacts. Surtout que moi, je ne suis pas rentrée dans le domaine médical pour un peu faire la genèse du projet. Mmh. C'est un moment où j'écris une fiction à la base sur l'envahissement psychologique parce que c'est quelque chose qui me traverse. Je cherche un peu la figure de l'envahisseur. Et cette fiction, je l'écris des années, enfermée chez moi, un peu en huis clos comme ça, un peu en asphyxie. Et à un moment, en creusant ce rapport à l'envahissement, je tombe sur le mot rumination mentale. Et à ce moment-là, mettre ce mot-là sur ce que je vis, ça me permet déjà de pouvoir en parler. Et donc après, d'aller enregistrer des gens. Et de sortir du coup de mon huis clos qui était insoluble en fait. Et du coup, quand je vais enregistrer des gens, je me rends compte qu'on est beaucoup à vivre ça, qu'on ne met pas tous la même chose derrière. Et voilà, je fais le choix de laisser ce flou aussi. Et après, il y aura peut-être un deuxième volet qui essaiera d'être plus précis, mais pour l'instant, ça reste comme dans ce flou-là.
Et si tu es OK pour en parler, toi, concrètement, ça se manifeste comment, ces pensées envahissantes ?
Pour moi, c'est des pensées qui reviennent et qui tournent en boucle dans ma tête, où il y a souvent... où je revis des situations, où je revis des scènes, où je repense à... Ça, c'est la pensée, mais ça me colle. Ça me colle au sol, ça me colle... En fait, c'est des moments où ça prend tellement de place que le temps me file entre les doigts et que j'ai une certaine inertie qui s'ajoute à ça. Donc j'écris. La volonté de ce projet, c'est aussi de sortir de ça, de sortir de l'inertie. Ouais. Et c'est le fait d'être empêché, en fait, d'être paralysé par ça, d'avoir l'impression d'être dévoyé en fait, par ça, qui fait que je commence à aller enregistrer les gens.
En fait, c'est des pensées intempestives qu'on peut ressentir malgré soi, qui ne viennent pas de l'intellect, qui ne viennent pas de la réflexion, qui viennent d'un autre espace de soi, qui viennent du ça, et qui vous polluent finalement dans vos journées. Alors, qu'est-ce que c'est par exemple? Ça peut être contre vous, c'est toutes les pensées du côté de « tu n'y arriveras pas, tu es nul, tu ne vas pas être à la hauteur, tu ne feras pas ce que tu dis que tu vas faire, tu n'aimeras plus la femme que tu es en train d'aimer, tu n'aimeras plus l'homme que tu es en train d'aimer, le travail que tu fais, tu vas le perdre. » C'est toutes ces pensées-là, vous ne contrôlez pas, qui sont presque comme des pensées qui ne vous appartiennent pas et qui vous entrechoquent continuellement. Ça peut être aussi contre le monde, rien ne va marcher, il va se passer des choses dramatiques, ou par exemple vous êtes en train de traverser la rue et puis vous avez l'impression qu'un camion va venir et vous écraser, vous êtes en train de et vous avez l'impression que vous pourriez vous noyer. Tout ce panel-là de pensées, finalement, que vous ne voulez pas ressentir, que vous ne pensez pas, qui ne sont pas du tout liées à votre intellect et à votre réflexion, mais qui vous viennent.
Les pensées envahissantes, donc ça désigne des idées, des images ou des phrases mentales qui surgissent de manière répétée, difficile à contrôler. Elles s'imposent à l'esprit, souvent malgré soi, et peuvent tourner en boucle. Ce n'est pas forcément une pathologie, tout le monde en fait l'expérience, mais elles deviennent problématiques quand elles occupent l'espace mental au point d'empêcher de penser à vivre autre chose ou de vivre entre guillemets normalement. C'est chargé émotionnellement, c'est-à-dire qu'ils peuvent générer de l'anxiété par exemple, de l'incapacité, c'est un peu ton cas, de la culpabilité, de la honte, de l'inquiétude.
À différencier de la névrose qui est finalement issue de certains traumas de votre vie qui fait que vous réflexionnez dans ce sens-là. C'est-à-dire que penser que par exemple vous allez échouer à un test parce que petite par exemple on ne vous a pas renvoyé de regard positif et puis que donc du coup vous avez constamment l'impression que vous allez échouer, ça c'est névrotique, mais ce n'est pas les pensées obsessionnelles compulsives, ce n'est pas les pensées intempestives, ce n'est pas les pensées non définissantes. Là on est dans un autre chemin, on va dire névrotique.
Tout le monde est concerné, tout le monde vit avec soi-même et se parle à soi-même.
Oui. Après, moi, je peux pas parler à la place de tout le monde. En tout cas, les gens que j'ai interrogés, j'ai été voir des gens et je leur ai demandé, j'aurais posé deux questions. C'est quoi pour toi l'envahissement? Et voilà, tu peux me parler de tes ruminations mentales. À partir de ces questions, les réponses, elles ont jailli de ces questions-là.
Les mots sont très très forts. Je crois que je parle de sensation d'enfermement, comme si effectivement le cerveau, il reste bloqué dans ses boucles et qu'il rejoue une pensée sans parvenir à résoudre un peu, je dirais, le trouble du départ, et que ça peut s'apparenter parfois à des obsessions ou des scénarios qui se répètent sans qu'on les choisisse. Tu sais, c'est comme un bruit. Quand on est en extérieur, il y a plein de bruits qui sont présents, mais qu'on perçoit pas. Et d'un coup, par le fonctionnement du cerveau, on est capté par un son, il prend une réalité, alors qu'il était déjà là. La pensée, c'est peut-être un peu ça, quoi. Comment elle arrive en toi?
Moi, je sais pas comment la pensée arrive. Après, c'est... Oui, il y a des trucs comme on parle des choses émotionnelles qui nous marquent. Je me reconnais dans pas mal de témoignages. Au final, des gens qui parlent de présence d'une personne qui vient comme ça, on revit des choses. Il y a des personnes qui viennent nous parler. C'est des choses qui sont pas forcément problématiques au prime abord, mais qui nous prennent. Après, ce que je trouve intéressant dans les témoignages, c'est que c'est très varié, c'est très divers. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de cas comme ça. Voilà. C'est chacun a son vécu, et moi, c'est vrai que dans ce documentaire-là, je fais le choix de mettre en parallèle des témoignages de personnes. Donc, j'enregistre mes proches, et puis après, je vais aller voir les personnes du GEM. Et donc, du coup, mais dans mes proches, il y a aussi des personnes qui ont des vécus psychiatriques, des vécus de personnes psychiatrisées, qui sont en souffrance psychique. Dans les personnes du GEM que je rencontre, il y a aussi des personnes en souffrance psychique. Et il y a aussi des personnes qui sont pas en souffrance psychique, mais qui ont des vécus, des expériences. Et je fais le choix que les témoignages se rencontrent et dialoguent ensemble. Mais l'idée, c'est pas de dire qu'on vit tous la même chose. Pas du tout.
Et d'ailleurs, quand tu t'adresses et t'intéresses à ta famille, est-ce que pour toi, c'est dans un parcours un peu thérapeutique ou de compréhension te concernant toi? Parce que là, il y a un truc plus filial, peut-être, tu vois. Est-ce que tu le situes au même endroit, cette démarche?
En fait, moi, j'ai l'impression que tout ce projet-là, c'est cathartique, et tout ce projet-là, il est là pour me soigner, en fait, pour sortir de l'isolement, parce qu'en fait, sortir de l'isolement, c'est déjà une grosse part, ça fait descendre, en fait, ça fait descendre les choses, et donc c'est pas que ma famille, mes proches, il y a aussi des amis très proches, les personnes du GEM, c'est pas des personnes qui vont moins me soigner que ma famille, c'est pas ça du tout, d'ailleurs... Quand je rencontre les personnes du GEM, c'est eux qui donnent les solutions à la fin. On sent qu'il y a une vraie expérience de ce que c'est les ruminations mentales et que du coup ils ont déjà des billes et donc une vraie connaissance. Et en fait c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je vais voir les gens du GEM.
Dans les témoignages, il y a quelque chose qui revient et qui m'a aussi surpris, c'est, j'aimerais bien que tu nous en parles, c'est ce que ça fait au corps. Parce que là, on parle effectivement de rumination mentale, mais ça a une implication concrète, incarnée, puisque ça crée de la fatigue, de la tension. Quelqu'un parle de respiration aussi, qui se bloque, de tremblement, de transpiration, et que d'un coup, cet envahissement-là devient palpable. En fait, c'est le corps aussi qui doit surréagir et l'accepter ou pas. Mais en tout cas, le corps fait partie aussi du problème.
Et complètement. Enfin, et quand on parle d'inertie, il y a l'inertie du corps aussi. Tout d'un coup, le corps qui se fige. Quand on a des ruminations qui déclenchent de l'angoisse ou de l'anxiété ou qui nous empêchent de respirer, justement, en fait, ne pas respirer, ça amène des choses dans le corps. Ça bloque des endroits et ça peut générer des pathologies physiques, en fait. Enfin, après, le corps et l'esprit, c'est très complexe. Tout est possible, en fait.
Et puisqu'on est des corps parmi d'autres corps, qu'est-ce que ça fait par rapport aux autres ? Comment ces modifications impactent ton rapport aux autres ?
Je pense que ces pensées-là, quand on a des ruminations mentales, l'autre, c'est compliqué. Vivre avec l'autre, avec les autres, c'est compliqué. Après, ça vient aussi du fait que c'est complètement tabou. Après, je ne sais pas si c'est le terme tabou, mais c'est juste, on n'en parle pas. Ouais. On n'en parle pas alors que ça touche tout le monde. Pas au même degré. On ne peut pas dire que tous les vécus sont pareils. Les vécus sont vraiment très différents. Il y a des personnes en souffrance psychologique qui vivent des choses vraiment extrêmes et très dures où ils ne peuvent pas s'en sortir seuls. Mais tout le monde peut être touché par ça. Pour moi, le fait de pouvoir en parler, ça permet justement de faire avec les autres. Se dire, il se passe ça. Et si je peux mettre des mots dessus, si je peux te le dire, du coup, on peut partager un espace. Ça fait redescendre, en fait. Je sais pas.
Aussi sur autre chose, c'est le rapport particulier au temps. Tu disais que tu revivais des scénarios, alors peut-être tu ressasses un passé, anticipes des catastrophes futures. Toi, quand tu as décidé d'écrire, c'était aussi pour parler d'un temps intérieur.
Clairement, moi, quand je décide d'écrire dessus, c'est pour faire descendre les pensées. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est de se dire, en fait, là, ce qui tourne dans ma tête, je vais le mettre sur le papier. Pour moi, l'écriture, c'est comme la lecture, en fait, mine de rien. C'est des endroits où les choses se posent. C'est des endroits où je me soigne.
L'écriture matérialise un petit peu, d'un point de vue même visuel, quelque chose qui ne l'est pas qu'on sait d'en penser.
Pour parler de moi, ça me permet de mettre à distance des choses. Déjà, ne plus les avoir dans la tête, les avoir sur papier, pouvoir les relire, ça les met à l'extérieur. Ça ne les arrête pas complètement, mais c'est un temps où on prend le temps pour se poser, je sais pas.
Ouais, puis c'est aussi peut-être un protocole de care que tu as inventé pour toi, qui te fait du bien. Et justement, comment on apprend à construire des refuges mentaux ? Est-ce que tu as entendu, par exemple, d'autres façons personnelles de se protéger ?
Il y a une personne qui parle de respiration, il y a une personne qui parle de mettre les mains dans la terre, de focaliser, d'aller faire son jardin... Et voilà, c'est des personnes que j'ai rencontrées au GEM qui parlent de ça. Après, je pense qu'il n'y a pas de méthode. C'est chacun qui va trouver sa méthode. Il n'y a pas de solution. Et puis, ça dépend. Voilà, encore une fois, ça dépend de ce qu'on vit. Je ne prétends pas du tout avoir des solutions pour des choses qui sont en plus très différentes selon le parcours psychiatrique ou la souffrance psychologique qu'on a.
Mettre la main dans la terre, c'est vraiment s'ancrer, quoi, s'implanter... au plus loin de ses pensées, peut-être
Oui, c'est ça. Il y a une très bonne amie là qui n'est pas dans le documentaire, mais qui vient de me parler de mettre les mains sous l'eau.
Toi, toi, tu as fait le choix volontairement de jamais pathologiser, de basculer sur le côté médical. C'est difficile de trouver l'équilibre entre être bien chez soi et être enfermé chez soi. Je sais pas, pour moi, ça parle aussi de ça. C'est où tu vas trouver du bien-être.
Ah oui, l'équilibre, il est compliqué. Ouais. C'est des moments de rumination, c'est des moments où moi, je suis pas très bien. Les personnes que je côtoie peuvent provoquer des ruminations. Du coup, j'ai besoin d'être avec des personnes avec qui je peux parler.
Là où je voulais arriver, c'était justement au GEM. Voilà, des lieux où tu peux trouver cet équilibre entre la parole et l'écoute. Donc on arrive dans le GEM de Gaël.
D'être né, le chemin est si beau du berceau au tombeau. J'ai perdu mes lunettes, ça va être la fête. Les soldats sont partis couverts de confettis. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Jardin, tenons-nous par la main. Le chemin est si beau du berceau au tombeau. Nous nous promènerons dans l'odeur du goudron. Dans les papiers qui traînent, blancs comme des migraines, blancs comme des mâles blancs près des chantiers dormants. Gavons-nous de beignets, de frites et de poulets. Le chemin est si beau du berceau au tombeau. Nous irons voir flamber la ville tuméfiée. La vie est une foire, j'ai mis ma robe en moire. Mon frère est un raté car il est décédé. Allons-nous dévorer dans les hôtels meublés. Nous aurons des mégots au fond du lavabo. À l'aube, les blessés cesseront de tousser. Nous aurons un bébé, nous l'entendrons pleurer comme de l'eau qui boue. Les enfants sont tous fous. Allons-nous promener, quel bonheur d'être né. Le chemin est si beau du berceau au tombeau. J'ai perdu mes lunettes, ça va être. Les soldats sont partis, couverts de confettis. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau.
GEM, groupe d'entraide mutuelle, des associations issues de la loi de 2005 qui reconnaît le handicap psychique. des lieux de vie et d'échange surtout pour tous leurs membres, qui trouvent ici chaleur et convivialité.
Et puis bon, on vient retrouver, on vient trouver les autres, le bonheur de parler, le bonheur de se confier.
Rompre l'isolement, retrouver le goût des rencontres et du partage à travers des moments simples, c'est la philosophie des GEM. Et visiblement, ça marche.
Puis bon, j'ai dit, ici c'est ma seconde maison.
Moi je sors, je vois du monde et puis moi ça me fait du bien. Au lieu de rester à la maison toute seule, broyer du noir, et ici, non. On s'entraide, on fait de la couture, on fait tout, quoi. On se sent pas en train d'être jugé, on est comme on est, quoi. C'est ça qui est bien.
Voilà, de retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 avec Rosalie Kaufmann. Donc on l'a vu, ton projet t'a amené à rencontrer les usagers, usagères du groupe d'entraide mutuelle, le Trait d'Union à Gaillac. Comment t'es arrivé jusqu'au Trait d'Union ?
Voilà, je connaissais l'existence des GEM parce que j'y avais déjà été. J'ai cherché le GEM le plus proche de chez moi. Donc moi j'habite à Salvagnac et le GEM à côté de chez moi, il est à Gaillac. Et je leur ai écrit. En leur faisant part de mon projet. À la base, en plus, comme ce projet était à la base une fiction qui se transformait petit à petit en documentaire.
Mais est-ce que la fiction ne te permettait pas de mettre un peu à distance
Moi, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, c'est mon premier documentaire. En fait. Je l'appelle pièce sonore parce qu'il mélange le côté fiction et le côté documentaire.
Ça te protégeait un peu, j'imagine, de commencer par la fiction
En tout cas, c'est comment moi, je pouvais parler de moi. Ouais. Et c'est ma manière de parler de moi. Certaines pudeurs, c'est plus facile. Ouais. Du coup, voilà, j'ai écrit au GEM. Et m'ont accueilli très rapidement. Et du coup, j'ai été les voir et puis j'ai présenté le projet aux usagers, aux usagères. Ça fonctionne au volontariat et il y a quelques personnes qui ont été d'accord pour me parler, pour parler au micro. C'était très touchant comment ils sont livrés en fait. Mais autant mes proches que les membres du GEM, mais les membres du GEM, je ne les connaissais pas pour le coup. Ils se sont livrés vraiment. Ils ont été très généreux, quoi. Et notamment dans leur expertise, leur expérience. Et...
Quand t'enregistrais, tu te situais où par rapport à EL, en fait ? Est-ce que le micro te permet pas d'être moins impliqué ? Que t'as trouvé ta juste place, toi aussi, pendant l'interview, toi, la prise de son pendant l'interview ?
Moi, directement, je leur ai raconté le projet, je leur ai expliqué que ça venait de cette histoire de moi qui me pose des questions par rapport à mon vécu. Et je les ai impliqués aussi pour m'amener des réponses et de partager en leur disant, en fait, je pense que partager des vécus, ça permet de parler de ça, ça ouvre des choses. Et ils ont été très, très réceptifs à ça. Et moi, j'étais très étonnée parce que, comme je dis, c'est mon premier documentaire. J'ai toujours eu très, très peur de faire du documentaire. Pour cette question de qu'est-ce que je vais faire avec la parole des gens. Là, il y a un truc très assumé dans ce projet. On ne situe pas vraiment qui parle. Je mélange et ça a été dit. Je leur ai expliqué vraiment le projet. Mais c'est marrant parce qu'avant ça, j'avais fait des tentatives d'autres documentaires sur d'autres sujets et les gens ne s'ouvraient pas comme ça. Et quand j'ai trouvé... ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où je comprends ce que je veux faire quand j'écris, pourquoi j'écris ça, pourquoi j'ai envie de parler des ruminations mentales et ce que je cherche. En fait, je cherche à comprendre ce qui m'arrive. Et au moment où j'arrive avec juste cette posture-là de moi, je veux comprendre un peu ça et de voir si vous aussi, vous vivez ça et qu'est-ce que vous faites avec ça. Comment on fait avec ça, en fait. C'est un peu la démarche du projet. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on en parle et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ça ouvre. Tout s'ouvre. Et la posture-là, elle est limpide, en fait.
Quand tu parles de comprendre, c'est comprendre toi en tant que personne concernée, pas toi en tant que professionnel qui travaille sur un sujet quelconque. Je pense que les gens à qui tu demandes, à qui tu t'adresses, le perçoivent aussi. Je pense vraiment qu'il y a ce truc de sensibilité mutuelle, je ne sais pas comment le traduire, mais quand ils te répondent à toi, ils ne te répondent pas à toi en tant que journaliste, entre guillemets, potentiel, quoi. Là, vous êtes limite dans un échange constructif autour d'un sujet qui vous concerne. Oui. Et donc là, comme tu dis, l'échange est possible, la confidence est possible et la confiance est possible.
J'ai eu 2-3 personnes qui étaient vraiment contentes de parler de ça, pour qui ça ouvrait aussi des choses pour pouvoir en parler. Des personnes qui aussi m'ont dit « Ok, moi je vais te donner les solutions que j'ai ». Et c'était une vraie générosité là, comme des pères aidants, en fait, c'est ça. Mmh.
D'ailleurs, on va peut-être rappeler, donc les GEM, ce sont des lieux créés pour lutter contre l'isolement des personnes confrontées à la souffrance psychique, afin de reprendre confiance en soi, recréer des liens, participer à des activités collectives. Est-ce que tu penses, toi, que la parole collective peut casser certaines spirales mentales ?
Bah, je sais pas, je peux pas avoir la prétention non plus. Encore une fois, il y a des situations où ça... ça suffit pas. Et puis chaque situation est particulière. Mais en tout cas, sortir de l'isolement, pouvoir parler, ne pas se sentir jugé, être dans des espaces où on peut échanger sur ce qu'on vit et on peut, par exemple, rester se sentir pas bien et se dire bah, « moi, je vais m'allonger dans le canapé, je vais passer la journée allongée dans le canapé » ou « moi, je vais juste faire ça » ou « moi, là, j'ai envie de... » enfin, en fait, ces endroits où on peut être avec ce qu'on est et qu'il n'y a pas de pression, c'est important. Ça permet vraiment de vivre avec ces troubles.
Ce ne serait pas aussi le symbole d'un double isolement avec le côté ruralité ?
Je ne sais pas je crois en réalité pas. C'est possible. Peut-être des gens ils trouvent ça. Après, moi, je pense que vivre en ville, on peut être très, très isolé en ville, en fait. Parce que, justement, être seul au milieu de plein de gens, ça peut être terrible. Et puis, en fait, Gaillac, c'est pas la ruralité.
Mmh. Ouais, c'est la capitale du Tarn.
Pour avoir discuté avec Laure, qui travaille là-bas, c'est vraiment leur démarche, c'est ça. C'est sortir de l'isolement et être avec des personnes qui peuvent vivre des situations similaires ou pas que. C'est ouvert. Au point que moi, ou n'importe qui peut y aller, est bienvenu, quoi. C'est bienvenu d'y aller, même si on n'est pas en souffrance psychique.
Il ne faut pas un dossier médical ou...
Non.
Non. Mais est-ce que tu penses que ces ruminations, c'est seulement une affaire individuelle ? Ou alors, c'est le produit aussi de nos conditions sociales, quoi ?
Ah bah moi, je pense que c'est énormément le produit aussi de nos conditions sociales. Voilà. C'est... Je pense ça, oui. Faire la part des choses entre ce qu'on vit intérieurement, nos traumatismes et la pression sociale, le poids du regard sociétal, c'est très compliqué en fait. C'est très compliqué. On voit bien que quand, en période électorale, potentiellement les ruminations peuvent s'accentuer dans les moments là, en moment de guerre, les moments. Donc ça, c'est pour un peu des informations médiatiques, mais ça peut être des pressions au travail, ça peut être selon sa couleur de peau, son genre. Si on est valide, si on n'est pas valide, en fait, on va vivre les choses différemment et ça peut accentuer toutes sortes de troubles ou même les générer. Après, chaque histoire est personnelle.
Enfin, j'ai l'impression que tu mets à distance, tu veux le placer un petit peu ailleurs. Tu es sur le constat de comment les gens font pour vivre avec ces ruminations. Par exemple, même nous, là, on ne parle pas vraiment de santé mentale. Je pense que malgré tout, c'est le sujet également. Comment on fait pour la santé mentale dans une société qui la nie, qui l'invisibilise et qui crée un modèle de winner.
Ah oui, clairement. Ça, je... Clairement, c'est ça. Après, moi, c'est juste que je veux pas parler de choses que je connais pas. Je pense qu'à un moment, moi, je suis pas... ma démarche, elle est naïve, quelque part. Et elle a cette naïveté-là. Et je peux pas prétendre... Il n'y a pas plus de prétention que ça. Et voilà, peut-être que demain, ça m'intéresserait d'aller voir des personnes qui ont travaillé autour de ces choses-là et d'autres personnes encore concernées. Mais c'est surtout que ouais, je peux pas mettre des mots que je connais pas, en fait.
C'est intéressant, parce que là... On parle de rumination et finalement, on manque de mots.
Il y a encore une recherche à continuer, en fait. Il y a une recherche à continuer. Autant d'aller voir les personnes qui travaillent autour de ces questions-là que d'aller voir aussi encore des personnes concernées qui... Il y a des personnes qui travaillent autour de ces questions-là qui sont concernées aussi. C'est ça qui est...
La santé mentale, au départ, c'était prendre soin des gens. Et puis, au fur et à mesure des années, notamment en 2005, il y a un rapport de l'Union européenne qui dit avoir une population en bonne santé mentale, ça permettra de remplir les objectifs stratégiques de l'Union européenne. Donc, en fait, la santé mentale n'est plus du tout une question de soins, mais c'est une question d'économie. Hein, et c'est ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire la mauvaise santé mentale coûte cher, etc. Donc, la santé mentale, c'est on va raisonner plutôt sur des coûts pour la société plutôt que sur des soins à des personnes malades.
Dans le montage final, c'est vrai qu'il y a... qu'il y a des voix, des témoignages, mais également il y a d'autres sons qu'on entend, il y a des aboiements, des bruits, des respirations. Je voulais savoir comment tu avais travaillé ces sons non humains, peuvent être des bruits comme des parasites, en tout cas ces sons d'ambiance.
Bah déjà tous ces sons, je les ai pris à côté de chez moi. Donc c'est soit dans ma maison, soit c'est dans les champs, aux alentours et tout ça. Mais il y avait vraiment quelque chose de, pour le coup, très situé, que je voulais vraiment travailler autour de ça, cet enfermement, ce côté de qui colle chez soi. Je les ai enregistrés, j'ai essayé quand même de faire des gros plans, donc ces sons ressortent, qui viennent nous envahir aussi. Après, j'ai travaillé les équalisations pour faire ressortir certaines tonalités que j'aimais. Il y a quand même un travail qui est assez musical. Moi, j'ai réfléchi à comment je voulais que les choses sonnent, en fait. Et après, il y a une volonté que même ces sons-là soient construits en forme de boucle, c'est-à-dire qu'ils reviennent. Ils reviennent comme dans un quotidien où encore ces chiens, encore cette chasse d'eau. La chasse d'eau revient beaucoup. À la fois, ces sons chantent, parce que j'avais envie que ça soit aussi comme des... J'ai voulu que la chasse d'eau chante, j'ai voulu que les chiens, que ça soit des voix qui s'expriment comme ça, mais voilà.
Est-ce que tu voulais aussi peut-être traduire ce qui se passait dans ta tête, c'est-à-dire quelque chose d'invisible, en tout cas, pour les gens autour de toi, par quelque chose de très physique, concret? Bah voilà, le son d'une chasse d'eau, bim, ça évoque quelque chose de plutôt concret. Est-ce que ouais, ça fait partie vraiment de cette approche-là
Oui, oui, c'était vraiment quelque chose de traduire un état comme ça, mental, et traduire aussi vers une chasse d'eau. Pour moi, c'est la présence de quelqu'un. Voilà, c'est quelqu'un. On n'est pas seul dans la maison, il y a quelqu'un. À chaque fois, c'est travailler un peu les présences, l'escalier qui grince. C'est il y a quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est pas bien en train de ruminer et qu'il y a aussi des gens et qu'on n'a pas envie de les croiser et qu'en fait, voilà.
Enfin, toi, tu travailles le son. C'est pas un hasard, je pense. D'autant que même le mot boucle, par exemple, c'est un terme technique lié au son. On utilise des boucles. C'est étonnant que tu te retrouves à travailler cette matière-là qui te permet une nouvelle fois, je trouve, de reconcrétiser quelque chose qui peut se passer peut-être en toi, quoi.
Mais peut-être, moi j'adore les boucles. C'est marrant quand tu m'as parlé de musique, quand je mets Doom, quand je mets Qualcris, il y a aussi des musiciens, des rappeurs hip-hop qui bossent énormément aussi avec cette matière. Et moi, c'est ça qui me. Ça me fait quelque chose en fait, ça me fait quelque chose, mais une boucle. Aussi un pouvoir de la boucle, quoi. Enfin quelque chose qui se répète et qu'on peut, enfin il y a des endroits où on peut répéter des choses pour que aussi ça se fasse, mais là je dérive, là on n'est plus dans mon projet et on n'est plus dans les ruminations mentales, parce que les ruminations mentales c'est quelque chose qui c'est quand même assez pesant. D'écouter de la musique répétitive, c'est quelque chose qui me soulage, qui me fait du bien, que j'aime. Et du coup, j'ai travaillé ça, cette ambiguïté-là.
Parce que la boucle te permet aussi d'être dans un confort. Tu sais ce qui va se passer. Il n'y a pas de danger, survient pas l'inconnu. C'est aussi ça, ce qui est agréable dans les boucles ou les musiques répétitives. C'est qu'effectivement, c'est cocon, c'est cocoon, tu vois, c'est cocooning.
C'est comment ça fait repère.
Ouais,
et je pense que c'est aussi comment ce projet, comme je dis, il est très cathartique. Et c'était on se réconcilie, comment on se réconcilie avec ça. Et je pense que... c'est marrant, j'avais pas mis ces mots avant de venir là. Hein. Mais... le travail du son, comme je l'ai fait, c'était une réconciliation. J'ai cherché la douceur, en fait. Alors que les mots, je trouve que les témoignages, des fois, ils sont... Enfin, en tout cas, moi, il y a certains témoignages qui me font dresser les poils des bras. Et moi, j'ai voulu chercher cette douceur-là pour accompagner ça, accompagner ces témoignages.
Tu finis par une boucle. Même ton propre travail, en fait, cette pièce sonore se termine par une boucle.
Oui, alors... ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai cherché quand même à des boucles qui arrivent à évoluer. Et je pense que c'est ce que fait aussi Doom. C'est pour ça que j'adore Doom. C'est que ces boucles se répètent pas toujours pareil. Et il y a ça. C'est comment on arrive à, des fois, aller un peu attraper autre chose. Et... c'est cette recherche-là, manière sonore. On parle vraiment de manière sonore.
Oui, bien sûr. Mais c'est vivre avec la boucle, en fait, en la magnifiant. Quoi. Mais tu arrives à en faire quelque chose De beau, peut-être de poétique, et d'y voir, toi en tout cas, une forme de beauté, de différence.
Oui, puis de toute façon, la vie est une boucle. Enfin, je veux dire, les cycles des journées, les cycles des années. Enfin, je veux dire, mine de rien, cette forme-là, cette figure-là, elle est partout.
La vie est une boucle. Ouais, là, je pense, voilà, rideau, là, on peut pas... on ne pourra pas faire mieux.
Ou plutôt un cycle, peut-être.
Ouais. Et si quelqu'un écoutait Glouteron et qui reconnaissait, en fait, dans ses spirales mentales, qu'est-ce que t'aimerais que cette écoute lui procure, lui fasse ressentir?
Bah, j'aimerais qu'il se sente pas seul. Ouais. J'aimerais qu'il se sente pas seul et... qui puisse se sentir la force d'en parler. Mais d'ailleurs, moi, ce que j'aime, c'est quand c'est de l'accompagner et que ça puisse qu'on puisse parler après.
Et alors, toi, te concernant, est-ce que mettre des voix et des sons sur ces pensées, ça t'a permis, en fait, de les faire un peu sortir de ta tête, de les domestiquer?
Clairement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Mais déjà, à partir du moment où j'ai trouvé le mot pour en parler, je te disais, rumination, même si c'est pas un terme parfait, qu'il y aurait plein de choses à en redire et tout ça, mais déjà, on avait un mot. Et après, s'il y a d'autres mots, bah, je suis preneuse, quoi. Enfin...
Moi, je pensais à mastication.
Ah ouais. Mais en tout cas, je cherche des personnes qui travaillent autour de ces sujets. Je sais pas quoi. Je sais pas par où chercher, là, je suis un peu...
Ouais, faut lancer un appel.
Je lance un appel.
On vient d'entendre Glouteron, la pièce sonore de Rosalie Kaufmann, un voyage dans les pensées qui tourne en boucle, peuplé de voix, de bruit et de respiration. Rosalie est avec nous pour en parler. Bonjour Rosalie.
Bonjour Germain.
Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour nos auditorices?
Oui, bah alors, moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle La Disquette, qui est basé sur Toulouse. C'est un collectif où on fait de la création sonore et du documentaire sonore, mais aussi des fois un peu de la fiction et puis des objets plus hybrides. Et moi, du coup, je viens de terminer une pièce sonore qui s'appelle Glouteron, qui parle des ruminations mentales, et c'est mon premier documentaire, et puis je m'apprête à en faire d'autres, voilà.
Bonjour.
Bonjour.